Cette présentation a pour titre « L'évolution du confucianisme coréen, créateur et tournant de pensée ». La Corée est habituellement présentée comme un pays qui a été presque uniquement imprégné d'un néo-confucianisme orthodoxe, austère, lié au grand philosophe chinois Zhuxi, admiré par de nombreux intellectuels coréens. Cependant, elle est moins connue pour sa créativité de pensée qui, si elle fut plus discrète que celle de la Chine, n'en est pas moins réelle. Les Coréens, en raison de nombreuses difficultés héritées de l'histoire du XXe siècle, ont eu tendance à voir négativement leur tradition confucéenne et à mettre en exergue les idées occidentales, ce qui suscite aujourd'hui un travail de réappréciation. La période antique chinoise avec les 100 fleurs et l'apparition de grandes figures est unique en Asie. La Corée, différemment, n'a reçu les caractères chinois et a vécu la culture philosophique que dans les premiers siècles de l'ère chrétienne. Ainsi, les Coréens ont été confrontés à la tâche redoutable d'assimiler des idées et une sagesse qui s'étaient développées pendant presque 1000 ans. Cette présentation souhaite remonter à la période antique coréenne pour mieux saisir comment se sont faites la naissance et l'évolution des idées confucéennes au cours de l'histoire, avoir comme une perspective, un panorama de développement. On observera d'abord la période pré-philosophique, puis le temps des trois royaumes, lorsque le confucianisme était dans une relation ouverte avec le bouddhisme et d'autres pensées. On prendra en considération l'évolution des idées sous la période de Goryeo, avant que ne se fasse au XIIIe siècle l'introduction du néo-confucianisme qui a fleuri durant la dynastie Yi, fondée en fin du XIVe siècle. Et donc je couvrirai quatre grands points pour traiter de cette évolution. Le souci de cette présentation est surtout d'apprécier la pensée coréenne dans son originalité et dans ses aspects créatifs, parce qu'elle est beaucoup moins connue que la pensée chinoise ou même japonaise. Premier point, aux origines de la pensée coréenne. La considération de la pré-philosophie coréenne est instructive, car on y découvre comme un laboratoire d'intuition, de schèmes, d'idées directrices, de leitmotifs, qui ont ressurgi ultérieurement sous des formes plus élaborées dans une reprise rationnelle et philosophique. On prendra pour exemple le mythe de Tangun, selon lequel le fils de Dieu dans le ciel, Huanong, exprima à son père, Huanen, le désir d'aider les hommes vivant sur terre. Donc, le père du ciel répondit à ce désir, confia à son fils trois sceaux célestes pour gouverner les hommes. Donc, cette relation de Huanin, Huanong et l'homme Tangun, supposé être l'ancêtre coréen, né de Dieu et d'un animal transformé en femme, suscita l'expression de la pensée des trois dieux. Et Paul Ricoeur a montré comment le départ philosophique doit s'intégrer dans cette racine de pré-philosophique. Déjà dans le pré-philosophique, il y a les idées philosophiques en puissance. C'est pour ça que l'étude attentive du mythe de Tangun permet cette découverte. Ce mythe nous montre les racines de l'humanisme coréen qui inclut une dimension spirituelle. Huanong est venu sur terre pour établir une cité divine, un peu comme saint Augustin parlait de la cité de Dieu. Le but de Huanong était d'élargir la voie des hommes et de leur permettre d'atteindre de nombreuses bénédictions, y compris physiques, d'où le concept coréen de Hongik Ingan, élargir, enrichir l'homme. Ainsi, dans la vision coréenne, tous les hommes ont une nature susceptible d'être transformée pour recevoir ces bénédictions. On remarque d'autant mieux les caractéristiques du mythe de Tangun si on le compare à d'autres mythes. Par exemple, le récit de la Genèse dans la Bible, où nous avons au départ le concept de chute, de rejet du jardin d'Éden. Nous voyons ici dans le mythe de Tangon, il n'y a d'évocation ni de création, ni de chute de l'homme. L'accent est d'abord mis sur la bonté et l'harmonie entre le monde divin, le monde humain et même le monde animal. Alors que dans la mythologie grecque, les dieux pouvaient devenir la proie de jalousie, de colère à l'égard des hommes. C'est intéressant de relier avec la mythologie grecque. On éprouve dans le mythe de Tangon uniquement de la compassion, ce qui fait penser à la compassion du Bouddha ou au concept de laine, de souci des autres, de Confucius. Revenons un moment au sceau céleste confié par Huanin à son fils et qui offre une riche symbolique. Le caractère pu signifie deux pièces d'un document venant de la même source que deux personnes se sont données en se faisant une promesse. Lorsque les deux pièces sont remises ensemble, elles forment la preuve de la promesse originelle. Donc c'est le symbole non seulement de l'autorité pour Huanin, mais aussi de cette promesse d'une relation de fidélité entre le monde du ciel et le monde humain. Donc il y a dans ce mythe coréen une sorte d'alliance orientale entre le dieu du ciel et les hommes. Et qui se retrouve aussi dans une réflexion philosophique plus tardive, dans toute l'harmonie, etc. La philosophie occidentale, elle aussi, a hérité de tout un fond pré-philosophique. Mais elle a mis l'accent davantage sur la fragilité humaine, le tragique de l'existence, le sens de la faute et du péché. Ainsi, l'homme est souvent présenté comme faillible, coupable, déchiré dans sa conscience et divisé entre l'esprit et le corps. Même ce fut un grand problème, même pour Descartes. En revanche, les racines de la pensée coréenne accentuent l'optimisme, la compassion, la confiance liée à l'accomplissement d'une responsabilité. Par ailleurs, soulignons que le mythe de Tangon a des liens évidents avec le chamanisme. Par exemple, lorsque l'ours, devenue femme, ne pouvait pas trouver de mari, elle pria sous un santal, un arbre, pour concevoir un enfant. Huanin l'entendit et l'épousa. C'est ainsi que naquit Tangon. On trouve ainsi le symbole de l'arbre sacré lié à l'origine de l'homme et aux relations entre les hommes et les esprits. Il y a toute une atmosphère coréenne à réaliser. Dès l'époque ancienne, les Coréens furent sensibles à la réalité du divin qu'ils nommèrent Hanunim, qui exprime à la fois le ciel et l'unité. Unité qui deviendra un concept important en philosophie. Ils furent aussi sensibles à la présence des esprits supérieurs, aussi malfaisants. Bien que la philosophie centre la recherche de vérité sur la raison, et nous avons beaucoup accentué évidemment la raison conceptuelle, on ne peut éviter la dimension du sacré dans l'homme et dans l'univers, même aujourd'hui. Et c'est ce que Socrate exprimait par le daimon. Confucianisme et bouddhisme, notons-le, furent reçus presque en même temps en Corée. Donc, les Coréens ont dû assumer plusieurs pensées à la fois. Par exemple, durant la période des trois royaumes, autour de 50 avant Jésus-Christ jusqu'à l'unification de Silla, 668 après Jésus-Christ, le roi de Kokuryo, l'un des trois royaumes, Sosurim, adopta le bouddhisme, mais créa également en 372 une académie nationale confucéenne considérée comme la première université. Donc des périodes anciennes. Pendant plusieurs siècles, les intellectuels coréens ont assimilé la tradition culturelle confucéenne venue de Chine, particulièrement les cinq classiques. On a des documents montrant que les Coréens se spécialisaient sur l'un des classiques. Par exemple, devenaient docteurs sur le Yijing, docteurs sur le livre des rites. Tout cela pour dire que dans une atmosphère encore ancienne, liée au chamanisme, aux pensées traditionnelles, lent travail d'absorption du confucianisme, de réflexion coréenne s'est poursuivi, même lorsque la Corée est devenue officiellement bouddhiste sous la dynastie Goryeo qui commence en 918 pour s'achever en 1392. Mentionnons par exemple l'un des docteurs confucéens du royaume de Baekje, Wang In, qu'on mentionne invité par le Japon en 285 après Jésus-Christ. Il apporta au Japon avec lui un recueil de 1000 caractères chinois et 10 chapitres des entretiens de Confucius. Donc la Corée est supposée avoir transmis au Japon, à travers les royaumes de Pekché, un tout petit royaume aussi de Kaya au sud, de nombreux éléments culturels, le bouddhisme, les premiers classiques confucéens. Donc on voit que la Corée elle-même n'a pas été seulement réceptive de la Chine, mais a contribué à créer, à rayonner sur d'autres peuples. Parmi les créations coréennes liées au début du confucianisme, justement, j'aimerais mentionner l'organisation des Hwarang, fleurs de jeunesse, qui est réétudiée aujourd'hui dans ses aspects philosophiques et aussi littéraires, parce qu'ils ont laissé de très beaux poèmes, énigmatiques, mais très intéressants. Ces jeunes Hwarang recevaient une éducation qui les préparait aux plus hautes responsabilités de l'État. Et la caractéristique de cette éducation est qu'elle reposait à la fois sur le confucianisme, le bouddhisme et le taoïsme, ce qui est unique. J'aime beaucoup cette période ancienne coréenne parce que c'était une période de relations, une période de véritable échange et d'harmonie entre les pensées. Sont restés célèbres des Hwarang les 5 préceptes qui exprimaient cet esprit et qui avaient été énoncés en 612 par un moine bouddhiste, Wang Wang, mais qui s'appliquait à tous. Je le cite, servir le roi avec loyauté, servir ses parents dans la piété filiale, pratiquer la fidélité en amitié, ne jamais faire retraite durant une bataille, examiner soigneusement la décision de retirer la vie. On a des éléments confucéens, bouddhistes, taoïstes. On retiendra de cette période donc cette dimension de création harmonieuse. On fait souvent plus attention à un tournant culturel parce qu'il est spectaculaire. Comme tout le monde sait beaucoup plus, par exemple, sur le tournant du néo-confucianisme coréen aux recherches pratiques, on appelle Shilak, des 17e, 18e, 19e, parce que l'accent est parfois mis sur une opposition ou sur une rupture prononcée. Mais il existe d'autres formes de création plus cachées qui caractérisent la pensée coréenne, et c'est justement ce que je désire introduire. De nombreux érudits coréens à l'époque ancienne sont presque inconnus, et cependant ils sont admirables dans le bouddhisme, dans le confucianisme, et ils ont contribué à une évolution des idées depuis les formes pré-philosophiques et le chamanisme vers une réflexion plus rationnelle sur l'homme et la société, notamment les institutions et les rites qui sont devenus un fondement pour les générations à venir. Et sans l'introduction de ces penseurs, on peut moins bien comprendre même la période moderne et contemporaine. En deuxième point, je voudrais justement illustrer cette créativité par une figure, Chechiwan, né en 857, on ne connaît pas la date de sa mort, donc j'ai intitulé « Une recherche audacieuse, incomprise ». Et donc, sans doute parce qu'il était trop en avance sur son temps. Donc Chechiwan vécut à la fin de la période de Shilla, des trois royaumes, Pekché, Kokholyo, Shilla, au sud, sud-est, qui a unifié l'ensemble de la Corée, donc jusqu'au début du royaume bouddhiste de Koryo de 918. Avant lui, il y a quand même un penseur important bouddhiste qu'il faut mentionner, Wonjo, 617-686, qui avait une recherche originale, mais dans le cadre du bouddhisme, donc je ne l'inclurai pas. Donc, pour Chechiwan, il ne s'agissait pas seulement d'un tournant pour le bouddhisme, mais pour toutes les idées, car on avait dépassé le stade pré-philosophique, le stade de l'introduction des grands textes chinois, des courants de pensée. C'était une période désormais de maturation où le génie coréen était interpellé à trouver son propre chemin. Et pour moi, Chechiwan est l'exemple de ce génie coréen. Il symbolise une vision qui n'a pas été comprise en son temps, mais qui a laissé semence qui a fleuri avec des penseurs ultérieurs et qui est beaucoup réfléchi aujourd'hui. Une des raisons pour lesquelles Tchétch a été délaissé fut qu'il étudia autant le confucianisme, le bouddhisme et le taoïsme, qu'il ne se contentait pas d'une étude textuelle, mais qu'il voulait rejoindre l'esprit des fondateurs, Confucius, Bouddha, Lao Tzu, et ce qui requiert un grand esprit. Dans une approche profonde et compréhensible, Tché voulait élaborer une façon humble de penser qui retienne l'ensemble, l'enseignement élevé des grands penseurs et en même temps donner une direction pour les questions ordinaires et politiques. Par exemple, il a abandonné la politique parce qu'il voyait qu'il y avait trop de corruption, qu'il ne pouvait pas faire passer son message de réforme. Donc évidemment, ne pouvait s'écarter de lui ceux qui commençaient à utiliser les classiques confucéens à des fins d'ambition. Le premier examen d'État ayant eu lieu en Corée en 788. Tché refusait les barrières entre pays. Témoin sa parole, le Tao n'est pas loin des hommes, pour ceci il n'est pas de pays étranger. Parole étonnante même aujourd'hui. Il encourageait à découvrir les autres pensées. Je le cite, les Coréens doivent étudier tant le bouddhisme que le confucianisme. Ainsi, il espérait à créer des ponts entre les pensées, entre la société et la religion, et il voyait leur complémentarité positive. Ce qui l'animait profondément était une recherche de vérité qui dépassait les vérités particulières ou les approches limitées pour tendre vers une plus haute vérité qu'il exprimait par des concepts comme le Tao élevé ou le Tao inchangeant. Et en même temps qu'il cherchait un chemin de vérité universelle, et ça il est original, il souhaitait que la Corée trouve son identité particulière. Donc, lui-même a été en Chine pendant 16 ans. Il a eu des responsabilités en Chine. Il admire la Chine. Mais il souhaite que la Corée trouve son identité, son chemin. Je le cite. Il existe en Corée un Tao profond et mystérieux appelé Pongyu. Les origines de ces enseignements sont présentées en détail dans l'histoire des Hualang que nous mentionnons tout à l'heure. En fait, ce Tao embrasse les trois enseignements et transforme la multitude. Tché Chiwan est ainsi l'un des premiers penseurs coréens à avoir montré la possibilité d'une créativité coréenne en repensant le fond coréen en relation à l'apport d'autres cultures. En troisième point, je souhaiterais montrer donc l'évolution du confucianisme coréen en parallèle avec le bouddhisme qui devient la pensée la plus influente pendant plusieurs siècles. Mais souvent, on ne considère pas assez que le confucianisme a continué de cheminer et de se préparer pour un surgissement, une contribution ultérieure. Notons que la relation harmonieuse entre les pensées exemplifiées par Tché Chiwan ne s'est malheureusement pas poursuivie parce qu'elle demandait des personnalités d'envergure. Ainsi, dès le XIe siècle, des tensions se sont fait jour entre les courants. Bien sûr, plus le bouddhisme acquérait une position d'hégémonie et plus les confucéens commençaient à remarquer les travers d'une société où le religieux n'était pas contrebalancé par une réflexion philosophique prenant en compte l'importance des réalités concrètes. Si certains lettrés utilisaient le confucianisme pour obtenir une place de fonctionnaire, et c'est arrivé très tôt, d'autres cependant entrevoyaient l'importance des idées confucéennes de la période classique et l'enjeu pour la société de leur temps. Donc c'est là ce travail profond qui s'est fait pendant des siècles avant le néo-confucianisme. Une prise de conscience s'est faite du rôle joué par les sages anciens, puis par Confucius et Mencius, dans l'élaboration d'un modèle de gouvernement, de société, de rites qui donnaient un sens à l'existence. Et les Coréens donc, ont cherché à recouvrer cet idéal et à le développer pour la Corée. Donc cela est devenu extrêmement important, surtout à partir du 11e, XIIe, XIIIe siècle. Donc notons que la période même de cette élaboration s'est faite dans des conditions extrêmement difficiles. Ce fut une période tourmentée avec l'invasion des Khitans au XIe siècle, barbares du Nord, et l'invasion mongole à partir du début du XIIIe siècle, ainsi que des problèmes intérieurs que la Corée traversait elle-même, la prise de pouvoir par les militaires, par exemple, entre de 1170 à 1258. Et dans cette tourmente, de nombreux documents furent détruits, tels que le canon bouddhique du Tripitaka. Tripitaka, donc ce corpus bouddhiste gravé sur des tables qui avaient été conservées, qui a été détruit, et les Coréens ont reconstitué, qu'on peut admirer aujourd'hui dans le temple de Insa au sud de la Corée. C'est pour dire que une autre difficulté que nous avons pour retrouver cette période ancienne, pour l'apprécier, c'est que beaucoup de documents nous échappent à cause des vicissitudes de l'histoire. Donc, lorsqu'on considère l'impressionnant surgissement de la pensée de Yi Wang et Tege et Yi de Yulgok que l'on va mentionner plus tard au XVIe siècle, cela ne peut pas expliquer sans un travail préparatoire de fond qui remonte à des siècles, de même que l'apogée de Chu Xi en Chine s'est fait grâce aux travaux qui l'ont précédé de Tsutuni, des frères Cheng, de Zhang Cai. Cependant, pour la Corée, les penseurs coréens qui ont précédé Tege sont beaucoup moins connus. Et c'est pour cela que j'essaye d'introduire quelques-uns aujourd'hui. Je mentionnerai tout d'abord Che Song-no, 927-989, favori du fondateur de la dynastie Goryeo, Taejo, et de son successeur, qui présenta des plans de réforme et une meilleure organisation du gouvernement provincial. Il demandait qu'on mette l'accent sur la frugalité et les responsabilités sociales, et que pour les coutumes, on accentue l'identité coréenne. Et on retrouve l'idée de Che. Il mettait en garde contre les excès du bouddhisme. Et je le cite dans ce passage. Ceux qui pratiquent le bouddhisme prennent la culture spirituelle comme principe essentiel. Ceux qui pratiquent le confucianisme prennent le gouvernement de l'État, l'art de diriger comme principe essentiel. La culture spirituelle a de la valeur pour l'après-vie. Mais gouverner le pays est la tâche du présent. Le présent est ici et l'après-vie est très distant. Comment ne serait-il pas erroné de sacrifier le présent pour ce qui est distant ? Réflexion très touchante qu'on peut appliquer à une époque contemporaine de l'urgence de prendre en compte donc les transformations présentes. Et deux autres figures, Chie Chung, 984-1068, appelé le Confucius coréen parce qu'il a organisé des académies modèles où étaient enseignés donc les classiques confucéens, mais aussi l'histoire chinoise et tout un cursus. Nous avons vu la création de premières académies, période ancienne, 4e siècle, avec les diplômes sur les classiques. On voit maintenant un nouveau développement important avec Che Chung de l'éducation, et où parmi les classiques, le I Ching, le livre du changement, va prendre une place importante. Au temps de Kim Pu-sik, 1075-1151, le grand historien confucéen coréen, le sujet des cours touchait également le livre des méditations, mais aussi les documents historiques, la poésie et les rites. Et je voudrais mentionner particulièrement Utak, 1263-1341, à la fin de la dynastie Goryeo, qui est considéré comme l'un des grands spécialistes du livre du changement. Et cet intérêt pour le livre du changement, on le retrouve développé avec des grandes figures comme Isek, Chongmongju et plus tard Tege, Yulgok, et même au XIXe siècle avec Chongakyung Dasan, qui, quoique spécialiste du mouvement pratique, a composé un essai très important sur le Yijing. Donc on voit ce souci coréen de donner une réflexion ontologique importante pour les réflexions de autres réflexions sur l'homme et la société. Un moment intéressant dans l'évolution du confucianisme de cette fin de Koryo est lié à l'invasion mongole. Malgré, on voit toutes ces destructions, les points positifs ont été gagnés par les Coréens dans ces circonstances difficiles. Lorsque la Corée fut soumise aux Mongols en 1267, le roi Wanzhong permit que le prince héritier, le futur roi Chungyeol, épouse une princesse mongole, suscitant ainsi un rapprochement entre la Chine et la Corée. Et dans ce contexte difficile, Chungyeol emmena avec lui des jeunes lettrés de talent coréen pour des échanges en Chine, et parmi eux se trouvait Anyang, 1243-1306, qui voyagea en Chine en 1289 et qui repéra le premier l'importance des écrits de Zhu Xi, ses lettres, ses écrits, donc, dont il a rapporté des documents en Corée et qui a suscité des premières réflexions sur le néo-confucianisme pour les Coréens. Donc les Coréens ont découvert que ces écrits étaient importants pour un projet de société qui ne serait ni légaliste, ni purement religieux comme dans le bouddhisme, mais qui guiderait la façon de vivre dans un respect des principes essentiels. Donc Anyang, à cette époque, se désolait de la situation coréenne où le confucianisme profond était négligé par la majorité des personnes, où le bouddhisme était très dominant, mais où il y avait beaucoup de problèmes de société. Et je citerai ce poème, une partie de ce poème pour montrer son souci. En tout lieu, on fait brûler de l'encens pour supplier le Bouddha. Dans chaque maison, on entend des instruments de musique pour repousser les esprits. C'est le chamanisme. Les cérémonies du Kut. On ne remarque guère que deux ou trois personnes dans le sanctuaire de Confucius. La cour en est pleine d'herbes. Elle reste silencieuse et déserte. Donc, sanctuaire de Confucius est délaissé. Donc, les Coréens, comme les Chinois, ont créé en l'honneur de Confucius un sanctuaire où il y a des célébrations chaque année pour vénérer Confucius, d'un lieu de rassemblement, d'échange et d'études également. Et on voit que là, à cette période, il n'y a pas d'attention. Donc, sur cette base d'efforts, par exemple, de Chungyeol, de Hanyang, un beau projet d'échange culturel s'est développé entre la Corée et la Chine à cette époque, grâce surtout à la personnalité du fils de Chungyeol, qui s'appelle Chungsan, qui a gouverné la Corée de 1308 à 1313, mais qui a abdiqué très tôt. Donc il était tellement passionné pour l'étude, pour les idées, pour les échanges culturels, qu'il a délaissé la politique pour se consacrer en Chine, entre la Chine et la Corée, à un projet extrêmement important de diffusion des idées nouvelles néo-confucéennes. Donc il a établi de nombreux liens avec des savants chinois, des relations avec les Coréens. Il a créé une sorte de centre de recherche appelé Mangwandang, c'est-à-dire le hall aux 10 000 livres dans la capitale Yan de l'époque, et rapportant jusqu'à 4 000 livres importants en Corée. Donc, durant son séjour en Chine, Chungsan appela auprès de lui des érudits coréens de talent, tels que Yi Cheyon, 1287-1367, qui voyagea en Chine en 1315. Celui-ci était doué en beaucoup de domaines, poésie, calligraphie, peinture. Il faut remarquer que le lettré confucéen n'est pas seulement un homme d'État, n'est pas seulement un philosophe, qu'il allie les différents domaines. La vision intellectuelle asiatique, c'est de harmoniser les différentes formes profondes de recherche. Et cependant, le premier souci de Yi Cheyon était l'éducation. Alors on voit un point cardinal du confucianisme, et aussi pour les Coréens, que toute la base de la société est donc l'éducation. Car selon Yi Cheyon, à travers l'éducation, on peut vraiment mettre la nation dans la droite direction et dans l'accomplissement. Ces travaux ont été poursuivis avec ampleur par Yi-sek et Chong-mong-ju, les piliers de la nouvelle académie coréenne importante, qui va devenir l'Académie royale de Songgyeongwan, qu'on peut voir encore aujourd'hui. Donc, académie où sont formées l'élite de la nation sous la direction du roi. Les relations des nouveaux lettrés qui s'appuyaient sur le non-confucianisme avec les bouddhistes se sont malheureusement progressivement envenimées du milieu du XIIIe siècle à la fin du XIVe siècle. En général, pendant un certain temps, malgré les critiques vis-à-vis du bouddhisme, un respect demeurait pour la doctrine bouddhiste elle-même, s'était maintenu. Mais plus les corruptions du bouddhisme, des pratiques bouddhistes sont développées, par exemple l'enrichissement en terre, en esclaves, l'exemption des responsabilités militaires, des taxes, des corvées qui accablaient le peuple, un fossé s'est creusé entre le peuple misérable et puis une élite religieuse qui échappe à toute responsabilité. Donc, un pas a été franchi par certains néo-confucéens qui ont déclaré que la doctrine bouddhiste elle-même était un obstacle à la vie ordinaire. Donc, une réforme extrêmement profonde était nécessaire, car il fallait revenir à une responsabilité de la famille, de l'État, de la société. Donc, c'est toute une évolution s'est produite qui a conduit justement à ce passage d'un changement de dynastie, lorsque en 1392, ce n'est plus le bouddhisme qui est devenu la référence, le moine célibataire, mais c'est le confucianisme, l'homme d'État, le père de famille, la famille qui est devenue la référence pour les Coréens de l'époque. Lorsque le général Yi Song-gae a pris le pouvoir en 1388 et fonda une nouvelle dynastie 4 ans après, 1392, la dynastie qu'on appelle des Yi, qui dura jusqu'au XXe siècle, 1910, il s'appuya sur des intellectuels néo-confucéens pour élaborer les institutions de l'État. Cela est unique dans l'histoire de l'Asie. Même pas en Chine, même pas au Japon, il y a eu un exemple de confucéens parvenant au pouvoir. Aristote mentionne non plus, on peut mentionner avec Aristote qu'il n'y a pas eu non plus vraiment d'accès direct au pouvoir. Donc c'est un exemple unique dans l'histoire des idées. Parmi les confucéens les plus en vue qui ont aidé le général Yi Song-gae, qui est devenu donc le premier souverain de la dynastie, nous mentionnerons Chong To-jon et Kwon Kum brièvement. Chong To-jon, 1337-1398, prit une position extrêmement critique du bouddhisme et souhaitait l'élaboration d'institutions complètement nouvelles et basées sur le confucianisme. Cependant, il s'opposait à l'établissement d'une monarchie trop centralisée. Donc il entra dans des difficultés dans son projet de réalisation de pouvoir, dans la famille même du nouveau souverain, et il fut assassiné, comme on peut voir d'après les dates, très, très rapidement. La dynastie est fondée en 1392, il fut assassiné en 1398. Et donc il ne put pas, en fait, longtemps appliquer les idées qu'il souhaitait. La deuxième figure est Kwon Kun, 1352-1409, donc, qui est devenu aussi un des architectes de la nouvelle dynastie, un dirigeant politique, mais qui est aussi connu comme un penseur plus profond que Chong To-jon. Donc, lui, Kwon Kun, se montra moins activiste que Chong To-jon, plus modéré à l'égard du bouddhisme, dont il reconnaissait le fondement métaphysique. On mentionne au passage que le souverain lui-même, bien que fondateur d'une dynastie confucienne, demeurait attaché au bouddhisme. Et quand il a abdiqué pour son fils, il n'a même pas continué très très longtemps sa position de souverain. Donc il est entrer en relation avec des monastères, avec des moines. Donc on voit vraiment l'importance qui demeure du bouddhisme. Kwon Kun est surtout connu pour sa tentative de présenter des fondements métaphysiques de la doctrine néo-confucéenne qui permettent de motiver une action réelle dans la société, à la différence du bouddhisme. Je mentionne cela parce que jusqu'à présent, le bouddhisme apportait les fondements ontologiques, religieux de la société. Et les confucéens ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas seulement faire un changement politique, il fallait un fondement. Mais comme ce ne pouvait plus être le bouddhisme, il fallait créer quelque chose. Donc on a ici cette recherche de Kwon Kun dans ce domaine. Donc il rassembla les principaux éléments de sa pensée dans divers diagrammes, dont l'un fut particulièrement étudié, qu'on appelle le diagramme de l'unité du ciel et de l'homme. Diagramme, c'est une sorte de représentation visuelle que les Asiatiques aiment beaucoup, les Coréens également, où on cristallise en un schéma avec des caractères chinois, bon, qui ont évidemment beaucoup de symbolique en eux, une direction. Et donc là, on a des diagrammes justement, qui parlent de cette relation ciel-homme, que société n'est pas coupée du fondement métaphysique. Et donc on voit un lien également avec le chamanisme qu'on mentionnait tout à l'heure, le mythe de Tangun, de cette société un peu idéale qu'on pense et qui est liée à une démarche du ciel qui se soucie de l'avenir des hommes. Donc tout cela est donc nouveauté, mais lié à une tradition qui on ne peut que interpréter de façon délicate. Donc l'épanouissement de pensée comme celle de Tege et de Yulgok que on va aborder maintenant demande d'être d'abord de replacer en lien avec tout ce contexte du XVe siècle et du début du XVIe siècle, de ce passage, cette transition entre le bouddhisme et le néo-confucianisme. C'est une grande affaire quand on pense que pendant des siècles, la Corée était pratiquement de l'atmosphère à beaucoup d'aspects bouddhistes. Comment est-on passé dans une société à dimension de plus en plus confucéenne, néo-confucéenne, néo-confucéenne. Donc, évidemment, il a fallu du temps aux Coréens pour se dégager de cette atmosphère bouddhiste qui imprégnait nombreux aspects de la vie. Le XVe siècle vit surtout un développement des idées politiques, sociales et rituelles avec la montée du confucianisme. C'est seulement lorsque le pouvoir fut plus fermement établi que la réflexion philosophique. Donc on voit ce passage progressif de réflexion sur les rites, sur la société. Et puis, on arrive à une réflexion plus proprement philosophique qui va être notre objet d'étude. Et tout cela s'est fait dans une tension, évidemment, durable entre ceux qui détenaient le pouvoir et qui étaient parfois en faveur de certains penseurs et qui persécutaient d'autres penseurs dans cette tension entre le confucianisme et le bouddhisme. On ne peut éviter de mentionner combien le XVe siècle, juste avant la période philosophique que nous allons voir de Tege et Yulgok, le XVe siècle fut une des périodes les plus créatives de l'histoire coréenne. Donc je m'y arrête un petit peu parce que justement le sujet de ma présentation c'est de montrer qu'il y a aussi une créativité en Corée. Tant au niveau littéraire et religieux qu'au niveau scientifique, linguistique, juridique ou militaire. Et cela est dû principalement à celui qu'on appelle Sejong Taewang, le grand roi Sejong, qui a gouverné de 1418 à 1450, donc c'est une période assez durable, assez longue, et qui vraiment mérite d'être beaucoup plus introduit en Occident. D'ailleurs, un livre a été publié en anglais aux États-Unis, qui est une bonne introduction. Donc, ce roi mérite vraiment d'être apprécié dans toute sa contribution. Ce roi humaniste s'entoura d'un conseil scientifique remarquable qui fit des accomplissements de nombreux domaines comme l'astronomie, la médecine, la technologie, avec par exemple l'invention en 1420 de nouveaux moules métalliques pour l'imprimer. La Corée a toujours été en avance dans le domaine de l'invention des moyens de reproduction dans l'imprimerie. Et évidemment, il est surtout connu pour avoir créé l'alphabet coréen, le Hangul, en 1446, pour le bien du peuple, ce qu'il faut souligner. Donc jusqu'à lui, les caractères chinois étaient utilisés et des systèmes hybrides utilisés pour transmettre dans les sons coréens la langue chinoise. Donc lui a eu cette idée géniale de créer de toutes pièces une langue, mais de façon scientifique. N'oublions pas qu'il avait tout un conseil scientifique autour de lui, de créer de toutes pièces une langue unique au monde, qu'on appelle le Hangul, où n'importe qui, avec très peu de temps, peut arriver à la maîtrise de la lecture et de l'écriture. Notons au passage que les caractères chinois sont restés évidemment beaucoup plus populaires chez les intellectuels que le Hangul, qu'on considérait longtemps une affaire pour les femmes et les gens du bas peuple. Par exemple, la période qui précède Taigé, donc a beaucoup négligé le Hangul. Donc, période brillante de roi Sejong, qui demanderait toute une étude. Cette période a cependant été suivie d'une période complètement différente, tragique pour la Corée, qu'on appelle la période de Yonsan-kun, 1494-1506. On ne l'appelle même pas roi, hein, parce qu'il fut un très mauvais souverain, débauché et tyrannique. Un film vient d'être publié populaire en Corée sur sa vie. Et cette période a vu le commencement de purges de lettrés par le gouvernement central, de luttes de factions au niveau politique, à l'intérieur de la cour. Et toutes ces luttes, malheureusement, ont duré même après la chute du souverain et ont empoisonné l'atmosphère coréenne pendant très longtemps. Donc, par exemple, Taigé, que nous allons aborder, n'avait que 18 ans en 1519, lorsque sous le roi Chungcheong, l'un des représentants importants du néo-confucianisme coréen, Cho Kwangjo, 1482-1519, voyez la date très jeune à laquelle il est mort, fut éliminé justement dans cette période de rivalité. Donc Cho Kwangjo, je le mentionne parce qu'il est une référence pour les intellectuels du passé, des périodes futures, souhaitait faire que la société coréenne parvienne à justement incarner l'idéal confucéen. Mais il a voulu sans doute aller trop vite, il n'a pas réalisé l'importance de ses ennemis et il a été rapidement éliminé. Mais Taigé et Yulgok l'ont conservé son exemple comme un modèle d'intégrité et de pureté confucéenne. Donc j'en viens maintenant dans cette dernière partie à l'introduction de deux des plus grands penseurs, des deux plus grands figures respectées en Corée et qui commencent à être connues en Occident, Taigé et Yulgok. Alors, le premier, je mentionne, est Yi Wang Di Taigé, 1501-1570, donc 16e siècle. Taigé vient sur le fondement intellectuel établi par le roi Sejong, que nous venons de mentionner. Le goût des lettrés pour les caractères chinois demeure. Ainsi, Taigé a composé la majorité de ses écrits, tant philosophiques que poétiques, uniquement en caractères chinois. Un penseur aussi grand que Taigé ne peut pas être présenté en quelques traits rapides, évidemment. C'est pourquoi on donnera seulement quelques points de repère afin de suggérer une première impression de la personnalité de ce penseur et de l'ampleur de ses contributions. Tegé a vraiment incarné l'amour de l'étude dont parlait Confucius. Outre les quatre livres que j'ai mentionnés tout à l'heure, il s'est plongé à 19 ans dans le Yi Jing, le livre des changements, au point d'endommager sa santé pour le reste de ses jours. Plus tard, lorsqu'il atteignit 42 ans, il se consacra au déchiffrement de la correspondance de Xu Shi, le grand philosophe chinois, qu'il venait de découvrir. Ainsi, avec Tegé, pour la première fois, on a un penseur coréen qui embrasse l'ensemble des textes majeurs antiques et néo-confucéens, aussi bien chinois que coréens, non seulement par érudition, mais pour en extraire le sens, un sens qui éclaire le cheminement présent de la politique et de la société. Tegé est une figure attachante qui demeure aimée par les Coréens, de santé fragile, aimable dans ses rapports humains, aimant la nature. Il fut très vite ébranlé par les ambitions et les jeux politiques de la cour. Ayant réussi à deux examens inférieurs de fonctionnaire, c'est seulement sur l'assistance de son frère qu'il s'est présenté en 1534 à l'examen supérieur qu'il lui ouvrait les postes, les portes d'une carrière politique. C'est cependant seulement à contre-cœur qu'il a suivi ce chemin, parce que son cœur était toujours dans l'académie qu'il allait fonder, que j'ai mentionné tout à l'heure, le Sowon, se retirer dans la nature avec ses disciples, écrire, échanger, penser la société. Voilà ce qu'il dit de ses années de fonctionnaire, ça en dit long. « J'étais englouti dans le monde poussiéreux, sans un jour de détente, et il n'est rien qui vaille la peine d'être mentionné. » Pourquoi ? Tegé avait des ennemis acharnés qui faisaient de la politique politicienne, qui ne cherchaient qu'à l'éliminer, et malheureusement qui ont tué son frère, l'ont éliminé en 1550. Ça en était trop pour Tegé. Il n'avait rien à voir avec un monde comme celui-là, qui n'était pas du tout le reflet du monde du Lun que Confucius et Mencius avaient en vision. Et cela est important de réaliser pour rejoindre justement l'esprit dans lequel Tegé a écrit ses poèmes et ses réflexions philosophiques. On comprend l'humilité de Tegé dans son approche, presque le manque de confiance. Il se présente toujours comme quelqu'un qui ne connaît rien, qui a peu de volonté, etc. Alors qu'il a fait un immense travail. Et ce n'est pas par simple sentimentalisme qu'il s'est retiré dans la nature, qu'il aimait la nature, mais qu'il y trouvait un contact purifiant et aussi une présence divine qui apaisait son cœur troublé par les incohérences meurtrières des hommes et de la politique. C'est aussi pour ça qu'il a choisi comme l'un des concepts essentiels de sa philosophie ce qu'il appelle le kyong, le ting, le respect révérentiel. Donc d'avoir cette attitude toujours de retour à une position humble et qui permet d'entrer en profondeur dans les problèmes. Depuis un jeune âge, Tegé a préféré la lecture de certains livres. Je mentionne quelques-uns pour montrer quelle était sa direction de réflexion. L'un des livres de chevet fut le classique de l'esprit-cœur. Donc je crois que ce classique n'est pas trop étudié en Chine, mais Tegé l'a choisi comme un des grands classiques pour lui. Un autre classique important pour lui fut la grande collection néo-confucéenne. Donc ce recueil qui lui apportait l'ensemble du corpus de ce renouveau intellectuel chinois. Et donc il méditait pour voir comment apporter sa propre contribution. Et en troisième, les recueils des échanges de Xu Shi par lettres qui est extrêmement volumineux, et donc il a complètement déchiffré, et donc il en a fait lui-même un recueil pour les Coréens. De façon peut-être plus caractéristique qu'en Chine, Tegé a mis le poids de ses efforts dans sa recherche de pensée, dans une recherche de sagesse, ce qu'il appelle le Songhak, le Shengshui. Alors que le confucianisme est appelé en Extrême-Orient étude des principes ou étude de la nature humaine et des principes. Tege a préféré, et il a été suivi en cela pour le second grand penseur que nous mentionnerons, Yul Koch, il a préféré parler de l'étude de la sagesse, qui est pas loin de la sainteté aussi, ce qui peut faire écho en Occident à l'amour de la sagesse, selon l'étymologie grecque de philosophie. Et une telle étude prenait au sérieux la vision d'une société de laine, de souci des autres, qu'avait prôné Confucius au bénéfice de l'harmonisation des relations humaines. Parmi les œuvres laissées par Tege, maintenant ce qu'il a créé, produit lui-même, il y a son débat avec l'un de ses disciples, Kobong, sur les quatre commencements et les sept émotions. C'est intéressant de voir que les Coréens ont développé plus particulièrement que les Chinois, justement, ce creusement du problème, du rôle du sentiment, de l'émotion, de la relation avec les principes essentiels. Ce qui nous donnerait toute une réflexion philosophique de ce développement. Il a écrit aussi donc le condensé de la correspondance de Cixi, qui ont suscité beaucoup de commentaires. Cependant, les plus célèbres de ses écrits sont les réflexions de recueillement qui ont été admirées par des grands confucéens japonais comme Hatashi Ranzan et Yamasaki Anzai. Donc la Corée a eu aussi son impact au Japon et dans d'autres pays. Et juste à la fin de sa vie, ce qu'on appelle les 10 diagrammes pour l'étude de la sagesse, justement. Donc, je parlerai un tout petit peu des 10 diagrammes rédigés en 1569, donc une année avant la mort de Tege. Celui-ci a, dans cet court essai, synthétisé les grandes lignes de sa pensée et même les a visualisées à travers des diagrammes que j'ai mentionnés tout à l'heure pour le roi, afin qu'elles soient méditées chaque jour selon la manière extrême-orientale. Les cinq premiers documents s'ouvrent par le diagramme du Teji, du fait suprême, qui est une réflexion sur les fondements de l'univers de Tsutoni. Donc ces cinq documents donnent les fondements métaphysiques de la pensée néo-confucienne que déjà d'autres cherchaient avant lui. Et les cinq autres documents traitent de la compréhension de l'homme et de sa nature et de l'acheminement vers la vie concrète de tous les jours, vers les responsabilités à venir. Donc on voit les soucis de Tege, non pas seulement l'étude de principe, mais comment avoir un impact dans sa propre vie personnelle, au niveau le plus concret, au niveau le plus quotidien. Donc ce souci qui était déjà chez Confucius, à quoi servent les idées si on ne trouve pas l'impact dans la société elle-même? Et comme l'un des documents, le huitième diagramme, j'aimerais mentionner donc celui qu'il a choisi de l'étude de l'esprit-cœur, justement, qui manifeste son attachement privilégié, la réflexion de toutes ces lectures, et donc où il présente les fondements de l'esprit-cœur et les méthodes pour retrouver et cultiver à travers le respect révérentiel les divers aspects de cet esprit-cœur qui souvent nous échappe. Je le mentionne parce que la question de l'esprit-cœur semblait jusqu'à présent l'apanage des penseurs bouddhistes. Et cependant, Tege, qui n'aimait pas trop le bouddhisme, qui l'a critiqué, il a même critiqué Tichiwan, a développé une philosophie de l'esprit-cœur. Paul Ricoeur a dit en France qu'il n'y avait pas encore de philosophie du cœur. Et lui-même a cherché dans cette direction. Et je crois que là, il y a un point intéressant en Asie, et particulièrement en Corée, de cette recherche d'une philosophie du cœur. Donc le néo-confucianisme a évidemment été influencé par le bouddhisme. Mais la tonalité néo-confucienne, par exemple, même dans cette recherche de l'esprit-cœur, est différente. Le regard est plutôt orienté vers une transformation réelle du soi, aux fins d'accomplir ses responsabilités d'homme, y compris familiales, et de faire face aux problèmes concrets de la société, et des réformes de la société surtout. Donc Tege, parmi ses multiples contributions, a donc aidé à mettre à jour une réflexion sur la complexité de la condition humaine. Là, on a vraiment un départ philosophique d'envergure en Corée. Il a déployé ses talents d'analyse pour comprendre les principes originels dont la nature humaine est dotée, mais en même temps, il aspirait à une transformation de l'être, à une qualité de vie qui incluait une dimension spirituelle. Donc certains commentateurs coréens actuels parlent d'une théologie naturelle dans la pensée de Tegu. Enfin, dernier, je finirai par là, le dernier grand penseur, le deuxième grand penseur que j'introduirai, c'est Yi Di Yulgok, 1536-1584, qui est aussi une grande figure. Yulgok a vécu au temps de Tegu et l'a même rencontré en 1558. Alors, Tegu était déjà très connu, très admiré, et lui n'était qu'un débutant, mais dont Tegu a vu tout de suite la valeur pour l'avenir. Tegu a immédiatement reconnu les talents de ce jeune Yulgok. Les deux ont correspondu plusieurs fois, et lorsque Tegu est mort en 1570, Yulgok a exprimé son admiration pour ce maître de logique claire, de vie exigeante qu'était Tegu, droite, qui avait su rester comme un homme ordinaire. Il se soucie dans cette confusion politique de rester un homme tout à fait simple, tout à fait ordinaire. Moi, je mentionnerai quelques réflexions d'Yulgok à la mort de Tegu. Comme maître confucéen de cette époque, après Chou Kwangzhou, nous voyons tout à l'heure, il n'est personne de comparable à Yi Wang Tegu. Les talents et la grandeur d'âme de Yi Wang n'arrivent pas à la hauteur de ceux de Chou Kwangzhou. Vous voyez l'admiration d'Yulgok pour Chou Kwangzhou. Mais, pour ce qui est de la profondeur de recherche et de l'extraordinaire exactitude dans l'approche, la droiture de conduite, Chou Kwangzhou n'arrive pas à la hauteur de Yi Wang. À travers ces lignes, on sent déjà la personnalité du Yulgok qui embrasse les différentes recherches, qui veut donner une grande vision pour la Corée. À la suite de Tegu, mais de façon indépendante et encore plus créative, Yulgok a continué de développer le néo-confucianisme coréen, particulièrement la quête de sagesse, et les deux semblent inséparables dans leur apparence imposante. Cependant, alors que Tegu s'était scrupuleusement centré sur Chushi, ce qui a donné l'occasion après d'une certaine orthodoxie que Yulgok n'appréciait pas trop, Yulgok montra une volonté beaucoup plus forte, prononcée, de recherche originale et de créativité. Yulgok fut marqué par sa mère pour deux raisons. C'est que sa mère, qui est aussi très respectée en Corée comme femme créative en culture et en peinture, donc sa mère lui a transmis les textes chinois, la beauté de la poésie, de la calligraphie. Et sa mère l'a marqué aussi par son départ soudain, qui a donné un tel choc à Yulgok que toute son évolution philosophique en a été marquée. En effet, à la mort précoce de sa mère, Yulgok, qui n'avait que 15-16 ans, s'est tourné vers le bouddhisme, parce qu'il ne trouvait pas justement de réponse suffisamment profonde pour lui au niveau métaphysique. Donc il s'est plongé dans les textes de multiples sutras, il a mené la vie de moine pendant un an, pratiquant assidûment les exercices zen. Il a aimé certains textes, le sutra de diamant, l'éveil à la foi, et particulièrement le Sorangama Sutra, qui l'impressionnait. Ton esprit-cœur, dans un passage de ce sutra, est originellement beau, brillant et pur. Pourquoi ne cesses-tu de te donner la mort au milieu d'un esprit confus et lourd ? Donc, Yulgok fut impressionné que toute personne peut devenir Bouddha. Et là, il a vu un pont de relation avec le confucianisme, que aussi, dans le confucianisme, dans l'idéal, tout le monde peut devenir comme Yao et Shun, les modèles antiques. Donc, cette période de méditation, Yulgok emporta des impressions inoubliables qui se reflètent dans sa poésie et dans sa philosophie. Donc, il a aimé aussi beaucoup la nature, mais d'une façon différente de Tegu. Il aimait la majesté des montagnes et l'infini de la mer. Donc, on voit la dimension insatiable de recherche de Yulgok. De cette période aussi, il a obtenu le désir de relier les différents aspects du réel, comme Confucius qui répliqua à l'un de ses interlocuteurs, qu'il n'accumulait pas les connaissances, mais que son Tao enfilait le tout en un. Yulgok a été pour la Corée un peu dans cette recherche des dimensions. Donc, on a des échanges avec des bouddhistes, par exemple, qui montrent cela très bien, où Gok cherche à voir ce qui fait l'unité, non seulement dans le confucianisme, mais entre les différentes pensées. Et il a gardé cela dans tout son développement philosophique. Donc, passionné d'unité fondamentale, il cherchait à établir des liens entre les classiques, entre les pensées, entre les différents aspects de la vie. Et par-dessus tout, il souhaitait harmoniser l'idéal le plus élevé, dont le confucianisme était une forme, et la relation pratique, la réalisation pratique la plus honnête. Après plusieurs années de souffrance intérieure et d'hésitation, donc de cette période bouddhiste, Ulgok décida en 1555 de revenir et de poursuivre le cheminement confucéen, surmontant son penchant pour la solitude, pour la nature. Pourquoi ? Parce qu'il avait ressenti le plus déterminant, il fallait aider les hommes. Le vrai souci de Confucius, c'était cela, aider les hommes et réaliser une meilleure société en affrontant toutes les tâches quotidiennes, même si elles sont moins nobles qu'un idéal religieux. Et cependant, il a mis toute sa volonté, toute sa sincérité pour apporter une différence dans ce monde. Donc on voit, ce qu'il a retenu, c'est que les tâches concrètes sont très importantes, mais l'idéal intérieur, la sincérité, la clarté sont déterminantes. Donc par le versant pratique et quasi encyclopédique de son œuvre, Ulgok annonce déjà le mouvement pragmatique du XVIIIe siècle en Corée. Donc, il allie un peu les deux, si vous voulez. Donc, Ulgok fut à la fois un homme d'État compétent jusqu'à sa mort. Quand il est mort, le roi s'est retiré des activités politiques pendant plusieurs jours, ce qui est considérable pour un souverain, tellement il était triste du départ de Ulgok. Il a été compétent dans les questions économiques, dans l'éducation, les questions militaires, stratégiques, l'administration, la justice, les rites. Donc on a déjà un peu un esprit encyclopédique à cette époque. L'une de ses contributions importantes fut sa réflexion historique à travers plusieurs écrits significatifs comme son Manang Pongsa adressé au souverain. Donc il avait le sentiment, nous ne devons pas seulement étudier l'histoire chinoise, mais étudier l'histoire coréenne. Il était désolé de voir que souvent l'histoire coréenne n'était pas assez étudiée et considérée pour un développement de la tradition coréenne. Donc il voulait prendre à bras-le-corps les problèmes coréens dans leur réalité, sans ignorer la misère populaire, les incohérences du système politique et toutes les menaces. Par exemple, il a suggéré la création d'une armée de 100 000 hommes. Il sentait la menace d'invasion japonaise venir. Il a suggéré, et ce projet n'a jamais été accepté, et seulement quelques années après sa mort, en 1592, Hideyoshi a envahi la Corée. Et tout le monde, à ce moment-là, s'est rappelé de Ulgok. Donc sa vision était vraiment pour le peuple, pour la nation, pour le concret. Donc Ulgok est parti du réel de l'univers, écrivant des livres à un jeune âge, comme par exemple le livre sur la voie du ciel, le livre sur les nombres du changement liés au livre du changement. Il mettait l'accent sur le che, le qi, l'énergie souffle, alors que Tege avait privilégié davantage les principes, le li. Et cependant, Ulgok était encore davantage intéressé à comprendre la mystérieuse relation entre le li, le principe, et la réalité du che, du qi. Donc c'est cette relation, il s'interrogeait sur ce qui fait le lien intelligent et affectif de ces unité duelle qui anime le tissu cosmique. Je pense parfois, pour comprendre Ulgok, il faut se rappeler, par exemple, de ce que Teilhard de Chardin a essayé de montrer dans cette appréciation du cosmos, cette réalité, où il faisait justement cette relation entre le spirituel et le pratique. Et Ulgok s'est aussi très penché sur la relation entre le ciel et l'homme, entre découvrant une mystérieuse correspondance entre les deux. Je le cite, « Le ciel et la terre attendent un sage, et puis lui montrent les nombres. Le sage attend les écrits, et puis il manifeste aux hommes les principes. le ciel ne peut que susciter un sage et communiquer des écrits. Telle est la correspondance naturelle. La communication entre le ciel et l'homme est très subtile. Là, il y a, vous savez qu'en Asie, en Chine, en Corée, le ciel est une dimension extrêmement importante qui a suscité beaucoup de débats au temps des jésuites en Chine, mais qui mérite d'être réappréciée encore aujourd'hui. Au-delà des controverses, parce que le ciel demeure une dimension extrêmement importante de l'Orient. Comme Confucius avait vu dans la vertu un lieu de rencontre avec la source des êtres, Tegi avait vu un lieu de rencontre avec le ciel dans le respect révérentiel. Pour Yulgok, la rencontre est dans la sincérité. Et c'est la sincérité qui est le sujet d'un des quatre grands livres, la doctrine de l'invariable milieu. Donc, Yulgok a fait de la sincérité, mais qui semble un terme fade quand on le traduit en langue occidentale, comme concept essentiel de sa philosophie. Donc, il se rappelait évidemment de Tsutuni, fondateur du néo-confucianisme chinois, qui est dans un écrit exprimé par exemple « La sincérité est le fondement de la sagesse ». Et ça a beaucoup, beaucoup d'implications même en philosophie. Donc, je cite un petit passage de Yulgok qui est extrêmement profond. Le ciel, par les principes réels, substantiels, transforme et fait s'épanouir tous les êtres. L'homme, par l'esprit-cœur réel, atteint la capacité d'émouvoir l'autre et de communiquer. Les principes réels du ciel et l'esprit-cœur réel de l'homme ne sont autres que la sincérité. Et donc, toute une méditation ontologique qu'on pourrait faire. Donc, on peut comprendre la contribution importante que Yulgok a faite. Pour finir sur Yulgok, je mentionnerai l'importance de sa tentative de penser tout l'homme, à la fois dans sa profondeur, dans ses dimensions de fragilité et de noblesse. Donc pour lui, il ne s'agit pas seulement d'une compréhension psychologique, mais d'entrer dans une genèse qui tend vers un accomplissement avec ses risques. Et chez lui, l'esprit-cœur est le nœud dynamique qui harmonise ces dimensions, à la fois verticales et horizontales, le ciel et la société. En effet, il ne s'est pas égaré dans des méditations, des réflexions philosophiques. Il a puisé une force pour chercher une efficacité dans la solution des problèmes sociaux. Un leitmotiv revient chez lui, je terminerai par là, qui s'accentue au fur et à mesure de sa maturité, c'est celui de l'accomplissement. L'accomplissement qu'on trouve cristallisé dans son concept de Ingan Song Tui, en coréen, pour accomplir tout l'homme, et ça va loin. Donc il a médité l'exemple des grands sages, particulièrement de Confucius, et il a fait remarquer que ce dernier, Confucius, avait accompli au niveau individuel, mais s'était désolé de ne pas pouvoir réussir un fondement national. Donc l'accomplissement n'est pas seulement individuel, pour Confucius, c'est l'accomplissement aussi de la famille et l'accomplissement de la société. Donc avec réalisme, Yulgok savait que la tâche était très difficile, mais jamais il n'a renoncé à ses efforts. Toute petite conclusion, note finale, mentionnons qu'avec Yulgok, on s'arrête sur un moment d'apogée du néo-confucianisme coréen. On laissera en suspens les développements du XVIIe siècle, comme la pensée des rites et la progressive recherche d'une pensée pratique qui a débouché vers la fin du XVIIe siècle dans le courant qu'on appelle Shirak, c'est-à-dire le courant pragmatique. On pourrait appeler le courant des Lumières, par exemple. On peut faire un rapprochement avec ce qui s'est passé des Lumières en Europe. Cette présentation souhaitait aider brièvement à faire prendre conscience de certains tournants importants dans la maturation de la pensée confucienne coréenne depuis l'introduction chinoise jusqu'à un apogée du XVIe siècle. Et comme un érudit coréen, Che Yong-sung, l'a fait remarquer au sujet de la pensée coréenne, c'est beaucoup plus difficile à découvrir que pour la Chine. Il faut creuser le sable pour trouver l'eau qui s'écoule en dessous. La Chine, évidemment, brille. La Corée ne brille pas de cette façon. Il faut beaucoup de travail, beaucoup d'efforts entre l'étude de la pensée coréenne demande de la patience, de la précision, pour apprécier ce qui n'est pas visible au premier regard. Donc, nous souhaitons que cet essai suscite d'autres développements à venir, d'autres réflexions, d'autres découvertes pour entrer plus en profondeur dans la richesse de la pensée coréenne.